j'ai fait une présentation de vous, les temps forts, les sujets que vous avez traités entre les femmes, les enfants. Et les derniers, j'ai parlé aussi du dernier film que vous avez réalisé, Les Travailleuses du sexe. Voilà. Donc, je ne sais pas, il y a les réactions à chaud.
On vient de...
Bah, je ne sais pas si vos réactions à chaud.
Moi, tout de suite, là, c'est l'avalanche des images, là, comme ça, m'a donné un peu le tournis et a fait que je devenais presque aussi malade que les gens qui souffraient, quoi, de leur travail, quoi, de la décadence qui était les leurs au travail, quoi. Alors bon, c'est ça, c'est seulement vers presque vers le milieu où, du film que j'ai commencé à comprendre, à trouver les explications, quoi, qui étaient données, quoi, à les comprendre. Savoir que ces explications, qu'on était en train de faire de nous des robots, quoi, des gens qui ne communiquaient plus, quoi, qu'ils n'étaient plus que des consommateurs et comme ça gagnés par la concurrence, gagnés par la compétition.
C'est surtout qu'on déshumanise l'entreprise, peut-être. Moi, ce que j'ai, c'est ça, c'est surtout ça. En fait, tout est gros. Et toutes les preuves sont un peu accumulées, là, tout, on reçoit tout. C'est vrai que c'est très...
C'est assez dense.
Oui, c'est assez dense, je trouve. On reçoit tout, et c'est vrai que c'est un peu effrayant, hein. Faut avouer que ça fait un peu peur, hein.
Ça fait très peur, oui. Je veux dire.
Parce qu'on se dit quand même, où en est-on, là, si c'est comme ça, parce que moi, j'ai pas travaillé tout à fait dans ces conditions. Moi, j'étais à l'hôpital, alors c'est encore autre chose. Alors maintenant, l'hôpital, ça ne s'arrange pas. Mais il n'y a pas longtemps, j'y étais encore. Bon, il y avait quand même d'abord entre collègues une solidarité, il y avait quand même un syndicat, il y avait quand même... Donc il y avait autre chose, peut-être. Et puis, on travaille avec de l'humain, avec des gens qui sont malades ou qui sont des femmes qui accouchent. Donc là, on ne peut pas... C'est un peu différent. Mais ce film, moi, je l'ai trouvé bien et... On devrait le voir un peu plus, hein, moi je trouve. Parce que...
Il a été diffusé sur Canal+, c'est ce qui a été
oui, c'est ce que j'ai pas appris.
Il est passé en salle aussi. Malheureusement, je ne crois pas à Montreuil, je ne suis pas sûr qu'il soit passé.
Je ne sais pas.
C'était à la bibliothèque, c'était passé à la bibliothèque Robert Desnos, je crois.
Oui, absolument.
Parce que je l'ai un peu loupé, mais ça m'avait.
Oui, il a quand même énormément. Il a énormément été diffusé dans une, je sais pas, près de 200 salles en France aussi, oui. En dehors de Canal. Et puis, il y a les DVD aujourd'hui, enfin, ça, ici, dans toutes les médiathèques, les vidéothèques, enfin, il y a beaucoup de débats, c'est utilisé par les syndicats, moi. Presque toutes les semaines, il y a un débat avec ce film dans un endroit en devenir, parce que ça, le travail est un problème central dans la société aujourd'hui. Et qu'en effet, que vous ressentiez ce truc horrible, mais je veux dire, c'est une réalité parce que. Même le chiffre qu'on cite à la fin du film sur le, enfin donc pas sur les problèmes des suicides, c'était le chiffre, le dernier chiffre officiel qu'on avait pu utiliser, c'était celui du ministère du Travail, et en l'espace de 3 ans, ça a quadruplé le nombre de gens qui se suicident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on est en moyenne à un suicide par jour sur le lieu de travail. On parle de temps en temps de France Télécom, des choses comme ça. On parle des très grosses entreprises. C'est déjà énorme, le nombre de suicides qu'on entend par rapport à France Télécom. Mais de fait, dans beaucoup d'autres entreprises, on en parle beaucoup moins, les gens suicident. Ce qu'il faut savoir, il y a aussi un chiffre qui est sorti une fois, et maintenant on n'en parle pas beaucoup, c'est au niveau de la RATP et des chemins de fer, enfin de l'Île-de-France. Tout ce qu'il y a. Il y a 2 suicides par jour en moyenne. C'est monstrueux, c'est énorme. Et c'est-à-dire, comme par hasard, c'est toujours ou le matin, enfin, je veux dire, ou au départ du travail, ou au retour du travail. Et la RATP ne le disait jamais. On disait, il y a un incident technique. Et puis, c'est devenu tellement énorme qu'ils se sont dit, il faut peut-être dire que c'est un suicide, en disant, peut-être, ça poussera les gens à moins suicider. Mais moi encore, hier, j'ai une amie qui est rentrée, qui est institutrice, qui est rentrée chez elle, et vers 5h ou 5h30, bah, le train est arrêté, elle me dit, bah, ils ont annoncé qu'il y avait quelqu'un qui s'était suicidé sur la voie. Enfin, je veux dire, il y en a, c'est affolant. Donc, 3 suicides par jour, sans parler des 2 personnes en moyenne par jour qui meurent dans des accidents du travail.
Oui, oui, c'est
bon,
ça.
Je veux dire, le travail tue.
Ces accidents de voiture, voilà, tous ces suicides inconscients, les statistiques.
Et puis en plus, sur les accidents, là je vous parle des accidents sur le lieu de travail, enfin des suicides sur le lieu de travail, mais de fait, c'est extrêmement difficile même à faire accepter que c'est un accident sur le lieu de travail. On dit que c'est un rapport direct au travail. C'est forcément quelqu'un qui est mal dans son travail. Quand il rentre le soir dans sa famille et tout ça, je veux dire,
ça s'arrange pas.
Donc on peut toujours dire, oh, ça se passe mal dans sa famille, voilà, mais c'est pas au travail. Enfin, je veux dire, il y a des procès et tout ça, ils ont beaucoup de difficultés pour arriver à prouver. Maintenant, donc, les gens qui suicident, ils sont amenés souvent à écrire des lettres en disant c'est parce que les conditions étaient telle ou telle chose. Ouais, non, mais c'est quand même fou, quoi, parce qu'ils savent que c'est d'une telle violence pour eux qu'ils ont envie de le faire savoir. Et c'est aberrant. Donc on est dans un travail, une organisation extrêmement violente aujourd'hui.
Non, moi, j'ai beaucoup regretté que ce film ne soit concret qu'à la fin, où on a vu des gens... je pensais qu'on allait partir, si vous voulez, de quelques personnes hein, qui avaient telle et telle difficulté dans le travail, qui avaient... Et ensuite, on en faisait la synthèse. Tandis que là, on a présenté des gens qui étaient plus ou moins bien, qui étaient... Mais enfin personnellement, je n'ai pas très bien compris comment on a fait ce film, quoi. Pourquoi on l'a fait dans ce sens-là. Mais enfin, il y a sûrement... Je pensais plutôt des choses très concrètes, des situations très concrètes au début, voyez, et qu'on en tire la substantifique moelle. Hein, voilà, plutôt comme ça, quoi.
C'est-à-dire, le problème... dans le film, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous le connaissiez, mais il y a un film, des extraits de film de 2-3 fois, utilisés en noir et blanc, c'est un film qui s'appelait L'an 01. C'était un film culte un peu pour nous. C'était le premier film qui parlait un peu de décroissance en disant il faut arrêter. C'était dans les années 70. C'était GBA. Oui, il y a Coluche, oui, voilà, on voit Coluche. Oui. Qui, voilà, c'est dans ce film-là, c'est des extraits de ce film. Ouais. Et quand ils ont lancé le film, il disait, le slogan publicitaire, c'était « On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». Et que moi, je suis parti un peu sur ce système-là. C'est-à-dire le problème, ce que j'ai voulu faire dans ce film, parce que prendre des cas dans une entreprise comme ça, c'est... Il y en a, là, malheureusement, des milliers de sorts, des milliers de privés, des gens qui sont ouvriers, tout ça. Bon. Donc, j'ai plutôt... En fait, le film, il est construit avec 3 types de choses. Part sur le début du film. Il commence, alors que c'est un film qui s'appelle J'ai très mal au travail, on commence sur le bonheur au travail. C'est-à-dire des gens qui sont chez Dassault Aviation, voilà, eux ils commencent sur le bonheur, voilà. Ils sont contents et on voit que, bon, ces gens-là, ils sont tellement contents qu'ils font même une comédie musicale à la gloire de leur patron, ce qui est quand même un peu bizarre. Dassault, qui était quelqu'un de pas très recommandable, qui était sûrement quelqu'un de très intelligent au niveau de faire des avions, mais dans sa pratique quotidienne, ce qui n'était pas spécialement drôle. Et moi, j'ai rajouté, quand je me suis permis d'ajouter une séquence sur des... Parce qu'à un moment donné, il y a une des femmes de Dassault, un ingénieur, qui dit, mais nous, on est formidable, c'est qu'on est extrêmement fiers de ce qu'on construit. Alors là, c'était quand même un peu trop, quoi. D'autant plus qu'il y a un des intervenants avant qui est devant une affiche. Alors on n'y fait pas trop attention, on l'écoute lui, mais derrière c'est un Mirage 2000, donc un avion de guerre. Et donc j'ai mis cette séquence d'un avion.
Qui lance des bombes.
Alors j'étais gentil, j'ai pas mis la fin du plan où là on voit c'est du napalm et tout ça. Donc ces gens sont très fiers de travailler chez Dassault, mais ils passent la plupart de leur temps à faire des armes de guerre et pour tuer des gens. Donc je veux dire, c'est ça aussi le problème, il y a une responsabilité. Où est la déontologie, où est la morale là-dedans.
Elle, le fait qu'elle parle, elle pense que peut-être elle sera vue par ses cadres, enfin, par ses propres dirigeants, peut-être qu'elle dit dans les mains. Elle a peut-être peur de
Le problème, c'est qu'elle le dit et que de ce fait, je veux dire, c'est à il savait très bien que c'était par rapport à un film qui allait être montré à la télévision, qui allait être montré en salle. Et que les raisons pour lesquelles elle le dit, c'est son problème. Enfin, je pense qu'elle était très, très fière de travailler chez Dassault. Tant mieux, je veux dire. Il y a des gens, depuis des années, il y a des usines d'armement en France. On est un des pays qui exporte le plus d'armes au monde. Par rapport même à la grandeur de la France, on est sûrement, en pourcentage de population, on est sûrement le pays qui vend le plus d'armes. Parce que sans ça, c'est les États-Unis. Alors, si, il y a Israël qu'on vend beaucoup aussi. Donc voilà, on vit beaucoup aussi sur les armes de destruction de toutes sortes. Donc et dès qu'il y a un problème et on dit il va y avoir du chômage, on va fermer une usine d'armement, aussitôt les syndicats, non, quel scandale tout ça. Moi je veux bien, mais le travail, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Si on réfléchit pas sur ce qu'on travaille, sur ce qu'on fabrique, je pense que c'est quand même assez grave. La finalité quand même, c'est assez, elle peut provoquer un certain nombre de discussions. Alors si vous voulez, par rapport à ce film, c'est vrai que j'ai fait un choix. C'est que plutôt que d'aller dans une entreprise ou de montrer que ça allait ou que ça allait pas et pourquoi, et qu'est-ce qui se passait entre les cadres, les machins, je me suis dit il faut prendre le temps en même temps et de réfléchir un peu. Alors ça donne un film assez complexe. C'est vrai qu'il y a des gens, ça fait 5 fois qu'ils le voient, ils disent j'apprends toujours des choses parce que à chaque fois il y a tellement de choses dedans que il y a de quoi. Mais en même temps, moi, j'ai vu un certain nombre de films sur le travail. Et souvent, c'était sur les grèves, c'était sur des luttes. Et en général, ça se finit très mal. C'est assez triste. C'est les fermetures d'entreprises, fermetures d'usines, tout ça. Bon, et moi, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut faire un film où il faut un peu expliquer les choses. Et on a la chance en France, c'est qu'il y a une... notamment autour de Christophe Dejour, il y a une recherche au niveau de la recherche. C'est très, très pointu, de la réflexion sur le travail et comment les choses se sont transformées, qu'est-ce qui fonctionne par rapport à l'individu, qu'est-ce qui fait que l'organisation du travail a changé. Alors du coup, j'ai essayé de prendre des points de vue de gens, disons, de chercheurs, de disciplines extrêmement différentes. C'est aussi bien des économistes, des politologues, des psychanalystes, des syndicalistes, enfin bon, un certain nombre de gens qui ont travaillé sur le terrain mais qui réfléchissent aussi sur le travail. Et puis l'autre partie, c'est ce qui était forcément évident, c'est de prendre des salariés de la base, comme la femme de Moulinex, jusqu'au cadre supérieur, ou même jusqu'au type du MEDEF, en passant en effet par aussi le syndicaliste. Et le syndicaliste, non pas simplement qui nous sort toujours le même discours de syndicat, mais qui s'explique, lui, son rapport au travail de syndicaliste et comment il le vit. Et puis l'autre chose qui est importante, c'était les images du travail. Et que c'est pour ça qu'il y a de la fiction, il y a des reportages télé, il y a beaucoup de publicité, parce que les publicitaires sont malins, ils travaillent sur le lieu de travail, parce qu'ils savent que les gens y vont tous, et donc on voit comment le mépris, quelque part aussi, qu'il y a par rapport aux citoyens, notamment moi je trouve qui passe vers la fin, une des séquences les plus violentes, c'est ce type qui décide à un moment donné qu'il y a un truc et qui fout son ordinateur en l'air, qui enlève son attaché-caisse dans la poubelle et qui va au soleil, il se dit allez, je me libère du travail, ça suffit, et il voit une super bagnole qui arrive. Et puis voilà, il retourne au boulot. Et puis, sur le titre, voilà ce que vous pouvez faire autrement. En gros, vous êtes des cons consommateurs et de toute façon, vous allez bosser comme des imbéciles pendant toute votre vie parce qu'on vous pousse à la consommation et la pub est là et puis c'est tant pis pour vous. Si vous ne faites rien, si vous vous laissez faire, eh ben, c'est votre problème. Moi, le problème que j'ai, je ne comprends pas aujourd'hui par rapport à ce qui est devenu l'organisation du travail. Pourquoi ça pète pas ? Enfin, je veux dire, vu le nombre de suicides, vu la violence, les gens qui sont mal au travail, les problèmes de souffrance, c'est quand même assez aberrant jusqu'à quand les gens peuvent tenir dans une situation comme ça. Alors on ne sait jamais, en 68, d'un seul coup, ça s'est déclenché sur des choses. Peut-être qu'un jour, ça repartira, j'en sais rien. Mais je vois même au niveau des politiques, je vais vous dire, hein, c'est pas étonnant, mais enfin, je veux dire, il y a un seul politique qui a utilisé ce film. Mais vraiment qu'il a vraiment utilisé et qu'on fait des projections dans la région, c'est Ségolène Royal. C'est la seule qui a utilisé ce film, vraiment. Ils ont fait des tas de projections dans des villages, dans toute Poitou-Charentes, avec des débats et tout ça. Ils ont fait énormément de débats là-dessus, sur le travail. C'est la seule à s'intéresser un peu au problème du travail. Les autres, je veux dire, de l'extrême-gauche, enfin, je ne parle pas de la droite, parce qu'ils sont complètement responsables de ce genre de choses, mais même à l'extrême-gauche et tout ça, ils n'utilisent pas du tout ce film. Oui, qui est quelqu'un, bien sûr, bien sûr. Mais en tant que groupe politique, enfin, je veux dire, d'utiliser. Je veux dire, moi, une fois que j'ai fait un film, ce que je dis toujours, quand j'ai fini un film, moi, il ne m'appartient plus. Il appartient aux citoyens, c'est à eux d'en faire quelque chose. C'est à eux de le diffuser, c'est à eux d'organiser des débats, c'est à eux de le critiquer ou machin, ou de l'utiliser. Et c'est fait pour des débats. Heureusement, moi, j'en ai fait des, plus d'une centaine de débats. Je veux dire, c'est très important, parce que je sais que c'est un film complexe et que souvent, il faut... Il faut reprendre le film aussi quelque part, et puis prendre le temps. Et puis, je fais beaucoup avec le syndicat. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... La semaine dernière, c'était avec les cheminots de Lille. Il y avait 300 personnes. Il y a eu un débat formidable. Enfin, je veux dire, avec les gens par rapport à la violence aussi dans une entreprise publique aussi, où ils sentent de plus en plus la violence qui ressemble de plus en plus au privé, quoi. Je veux dire, c'est... ça devient insupportable, quoi. Et donc... Et pourtant, il y a une force syndicale très grande, mais c'est quand même extrêmement dur.
Dans ce film, c'est comment enfin ces multinationales sont arrivées à manipuler le petit peuple là, les travailleurs, faire d'eux des consommateurs qui se lancent dans la concurrence déjà. Entre travailleurs d'une même entreprise, là, parce qu'ils sont en concurrence entre eux, puis même ils entrent en concurrence avec des gens d'autres pays, quoi, où on les paye moins. Et ce qui gêne les multinationales là-dedans, c'est que dans un pays peut-être comme la France en particulier, qu'après 1945, comment s'appelle déjà les conquêtes sociales qui ont
le
été...
Le Front populaire, tout ça, de 36. Après le Front populaire de 36.
Même après 1945, en 1946, le programme, oui, le programme de la résistance, là, et les conquêtes sociales, là, qui, je pense que ça gêne terriblement les multinationales. Et ils s'appliquent à vouloir détruire ça, parce que c'est un exemple pour le monde entier, même. Ce programme national de la résistance appliqué au monde entier, là, c'était vraiment un exemple, quoi. Un exemple à suivre. Et ça, il faut le détruire. Il faut le détruire en créant en supprimant cela par de la concurrence entre en mettant en compétition tous les travailleurs.
Puis ça commence à l'école, hein, c'est ça le problème. Ça commence aussi à l'école, d'amener aussi dans l'éducation, d'amener gauche de plus en plus à être le meilleur et à dire il faut se battre contre les autres, il faut être en premier.
Le sport de haut niveau.
Aussi, bien sûr, le sport aussi a une vision.
Et puis alors, avec l'esprit qu'ils acquièrent ensuite, là, ils entrent vraiment dans le système ensuite, tous ces sportifs de haut niveau, parce qu'ils gagnent énormément d'argent. Et alors, bon, après, ils estiment que c'est leur droit, quoi. Alors, on en arrive aux écarts actuels, l'échelle des salaires aussi de 1 à 400, à quelque chose comme ça, là, maintenant, entre un smigard et puis les grands chefs d'entreprise et les... C'est ça, c'était intéressant quand même votre film là par rapport à ce mécanisme de cette volonté de casser les individus.
Bah, ce qui s'est passé, c'est que surtout on casse les individus en cassant le collectif. C'est-à-dire justement il n'y a plus de collectif. C'est la solitude de plus en plus. Et il fallait par rapport aux syndicats, par rapport à tout ce qu'il y avait. Depuis la guerre, enfin depuis 36, toute l'organisation qui avait fait, qui était très beaucoup plus collective, qui était une force très 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 importante face au patronat, et que tout le truc, et ils l'ont compris notamment en 68, et c'était très clair. Par rapport là, ils ont eu très peur, hein, ils ont eu très peur que le pouvoir politique puisse trembler à ce moment-là. Et donc, vraiment, ils ont mis tous les moyens pour, mais en engageant des psychologues, des chercheurs de toutes sortes, qui ont participé aussi à trouver des méthodes de management pour individualiser les gens. Et que même quand on fait ce qu'on appelle des open space, on voit 200 personnes dans une même énorme pièce, mais en fait, les gens sont chacun tout seuls. Enfin, je veux dire, ils sont épiés, ils travaillent tout seuls. C'est pas, on ne retrouve pas le collectif. Hein. Et vous voyez, ce qui est grave, c'est qu'à un moment donné, le syndicaliste, il dit, ben, aujourd'hui encore, on chante les machines. C'est-à-dire, on fait des courts-circuits pour accélérer ou ralentir une machine. Et mais le problème, moi je me rappelle dans les années 70, j'avais tourné sur la chaîne de Renault et il chantait les machines pour ralentir la chaîne quand il y avait des fois des gens qui étaient malades ou il manquait quelqu'un ou il y avait des gens plus âgés et les jeunes en faisaient plus. Et puis tout était fait pour que le petit chef il s'en rende pas compte. Il y avait une organisation collective pour que les choses puissent faire et tout le monde ait son salaire. Et aujourd'hui, ce qu'il désespère, le syndicaliste, c'est qu'il dit, mais les gens aussi, toujours, ils chantent encore les machines. Mais pour faire plus, pour dire, s'il y a un plan social, regardez, moi, j'ai fait plus qu'on mon copain, j'ai réussi à détruire la machine et je peux... Donc, moi, il faut pas me foutre en l'air, quoi.
J'ai travaillé, moi, de 60 à 70, chez Berlioz, à Lyon. Et là, très vite, enfin, en peu de temps, Lucine Berlier a fait éclater l'entreprise principale qui était à Vénissieux et qui groupait à peu près 30 000 personnes, a fait éclater ça en 5 ou 6 morceaux et a désorganisé les syndicats à l'intérieur parce qu'ils ont expédié dans plusieurs coins de Lyon, hein, à des kilomètres de Lyon. Des unités beaucoup plus petites et avec les organisations syndicales qui existaient à l'intérieur qui se sont trouvées ils ont eu à se réorganiser comme ça. Puis alors il y avait aussi les plans où on faisait les études de poste et on...
Oui, par rapport au travail, aux cadences qui s'organisaient.
Non, mais il y a même des... Enfin, je vois, aujourd'hui, on avait fait un film sur une entreprise qui s'appelle Eiffage, qui est une énorme entreprise qui fait toutes les autoroutes en France, principalement, qui est maintenant même propriétaire de certaines autoroutes. Et avant, c'était une énorme entreprise. Et là, maintenant, elle est séparée en 300 entreprises. Elles ont des noms différents. C'est-à-dire, même pour amener à des fois où il n'y a pas assez de trucs pour qu'il n'y ait pas de direction syndicale, pour qu'il n'y ait pas de comité d'entreprise. C'est-à-dire, tout a été fait pour couper, alors que de fait, c'est toujours en haut de l'entreprise qui décide tout. Mais je veux dire, c'était une manière, en effet, de casser, parce qu'il y a, en effet, un droit syndical, il y a des tas de choses selon la grandeur dans l'entreprise. C'est là le problème aussi des petites et moyennes entreprises, c'est que là, souvent, il n'y a pas de syndicat, il y a beaucoup de difficultés de prendre syndicat et puis il n'y a pas d'argent parce que pour le comité d'entreprise normalement dans les grandes entreprises il y a la possibilité des syndicats comme EDF ou GDF tout ça étaient très riches et faisaient des choses culturelles, faisaient des tas de choses collectives. Là dès qu'on découpe les entreprises c'est devenu impossible et donc les gens se retrouvent pas. Mais en même temps on parlait de la consommation tout à l'heure. Le problème, bien sûr, les multinationales, elles sont appuyées beaucoup sur les publicitaires et puis le passage à la télé, tous ces trucs-là. Et maintenant, on voit de la pub partout. N'empêche qu'il y a une responsabilité quand même de chacun. Enfin, je veux dire, il faut savoir, on n'est pas des moutons non plus. C'est aux citoyens aussi de se battre, de réagir et de ne pas accepter. Bien sûr, mais le problème, aujourd'hui, dans une situation de crise, de chômage... Je veux dire, il faut se battre hein, pour amener la décroissance. Bien sûr, heureusement qu'il faut en parler. Mais c'est très difficile à faire passer, à part dans des milieux culturels, choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas évident, hein, c'est pas très facile. Parce que tellement la consommation est devenue, c'est maintenant, je consomme, donc je suis. Hein, c'est ce qu'on a fait penser aux gens. Et puis, le grand slogan de Sarkozy, « Travailler plus pour gagner plus », ouais, mais ça, justement, ça n'a jamais été la réalité. Enfin, les gens commencent à l'apercevoir. Mais le problème, c'est qu'il fallait le décrypter. C'était pas travailler plus pour gagner plus, c'était travailler plus pour penser moins. Tout le truc, et surtout que les gens n'aient pas le temps de réfléchir, hein, qu'ils soient pris jusqu'au vendredi soir, et puis après, il faut aller au supermarché. Voilà, exactement, et puis de plus, et puis le lundi matin, on retrouve au boulot et on s'aperçoit qu'on a discuté avec personne, et les gens ne se retrouvent plus, et c'est vrai que les gens sont crevés, ils sont dans la pression, ils n'ont pas envie de rester le soir à une réunion syndicale, un truc comme ça. Donc je veux dire, tout est fait pour que ça soit extrêmement difficile de refaire du collectif, et c'est pour ça que nous on se bat beaucoup quand on fait des films, je veux dire aussi quand on sort en salle, parce que les salles de cinéma, c'est rester les derniers lieux un peu collectifs, où les gens peuvent se retrouver, faire des débats, organiser, mais ça dépend si les gens le veulent aussi. Il y a des syndicats qui le font, mais maintenant les gros syndicats, c'est encore dans le service public, on a des grandes organisations, parce que sans ça, il y a très peu, enfin les gens ont peur, hein. Il faut vraiment des forces syndicales très fortes.
Bon, si un jour vous voulez faire un film, oui, alors avec des gens heureux, hein. Moi, j'ai eu la chance de travailler justement dans deux établissements différents. J'ai une formation d'infirmière au départ et j'ai travaillé dans un sanatorium, donc à l'époque héroïque où il y avait quand même encore quelques morts, hein, mais avec alors un médecin-chef qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui était quelqu'un de gauche, et qui a lancé, si vous voulez, on travaillait, enfin, là je ne peux pas expliquer, mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment c'était un endroit où on travaillait volontiers, où les patients étaient là, c'était d'ailleurs un sanat réputé. Bon, c'était dans l'Eure-et-Loire. Ensuite, j'ai complété mes études et j'étais professeure de sciences médico-sociales en lycée. Alors là, pareil, je tombe sur un directeur vraiment très ouvert, etc. Mais on a fait des choses extraordinaires, extraordinaires. Hein, que ce soit, par exemple, j'avais fait venir au lycée, là, c'était un lycée technique, dans la région parisienne, j'avais fait venir les gens des Bleuets, vous savez, de la polyclinique des Bleuets. Pendant 3 jours, ils sont venus, parce que mes élèves, bon, nous, c'était médico-social, donc les élèves, c'était dans leur programme, en quelque sorte, mais elles en ont parlé, je dis elles, parce qu'il n'y avait que des filles, pratiquement, et elles en ont parlé aux autres, ils sont revenus 3 jours de suite, hein. 3 jours de suite. Un jour, j'avais fait venir aussi un avocat de la région parisienne, qui était donc du bon côté quand même, hein, avec l'aumônier de Fresnes, voyez, pour parler des problèmes des prisons. Voilà. Donc, j'ai toujours essayé de faire des choses comme ça, positives, de montrer. J'avais de la chance donc de pouvoir trouver des gens comme ça, voyez. Et moi, vraiment, je suis très contente de la carrière que j'ai eue parce que on a pu faire, mais avec des gens évidemment de gauche, quoi. Évidemment de gauche.
Votre exemple, c'est aussi que le travail peut être épanouissant. Hein, oui, c'est ça que vous voulez démontrer là, avec les exemples que vous avez vécu.
Quand on est dans bonnes conditions.
Mais je crois que dans ce film, ce film a été fait pour essayer de démonter toutes les clés qui permettent aux multinationales d'exploiter au maximum et de casser complètement. Oui, oui. Tout ce qui a pu exister comme solidarité dans le mouvement ouvrier pour faire disparaître tout cela le plus rapidement possible. Et Sarkozy et toute sa bande du Phuket, ils s'y emploient bien. Hein.
Le sanatorium en question dépendait de la Caisse régionale d'assurance maladie. À l'époque, donc c'était en 55-56, et la Caisse nationale d'assurance maladie, le conseil d'administration était de gauche, avec la CGT, c'était la CGT. Donc on faisait, si vous voulez, ils étaient toujours d'accord avec ce qu'on faisait dans le SANA, parce que c'était vraiment... Bon, ensuite, quand le conseil d'administration a changé de couleur, eh bien là, on a rétréci, il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas dépenser de l'argent, il ne fallait pas, etc. Quoi. Hein, voilà. Comment ? Allez-y.
Non, non, vas-y. Donc, moi, ce que je me demande, mais si finalement, par rapport au problème avec les hôpitaux et tout, c'est est-ce que finalement, c'est intéressant de remettre les gens sur pied, puisque finalement, on ne va pas les remettre forcément au travail ? Est-ce qu'il faut les soigner ? Parce que moi, j'ai appris un métier pour remettre les gens sur pied, pour les renvoyer au travail ou à leurs activités. Mais maintenant, est-ce qu'il faut les soigner finalement ?
Vous savez, il faut toujours soigner les gens. C'est un peu... Ouais, non, mais...
Parce que je me demande si avec tout ce qui se passe, si on va finir, si on continue à les soigner, les femmes, il faut quand même les faire accoucher. Bon, c'est vrai qu'ils ont toujours des enfants.
Oui, mais il faut espérer que les choses...
Juste pour répondre partiellement à ce dont vous parlez, aujourd'hui, vous savez que la loi va changer par rapport à la pension accident de travail. C'est-à-dire que, voilà, voyez, donc les gens, on leur renvoie la responsabilité d'avoir eu un accident de travail. Bon. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, Jean-Michel Carré disait peut-être un nouveau 68. Je ne pense pas que ce sera autre chose. Parce qu'en 68, c'est vrai qu'on pouvait dire merde à son patron et puis on trouvait du boulot le lendemain. Alors, on n'est pas du tout dans ce contexte politique, économique. On n'est pas du tout dans les mêmes... c'est quelque chose de complètement différent qu'on a en face de nous. Je crois que c'est une première. Voilà, c'est une construction pour que ça arrive à ça. C'est-à-dire une atomisation des individus dans une solitude totale d'hyperproductivité. Enfin, c'est Big Brother qu'on voit. C'est le film 1984, qu'on voit les extraits.
C'était une pub pour le premier Macintosh.
Ah
ils ont refait une mise en scène à 1984.
Donc, bon, le Big Brother, il est là, c'est-à-dire quand les tisserands, ils disent « Bon, il y a un ordinateur qui pointe tout ce que j'ai fait, combien de fois j'ai cassé le fil, combien de bobines j'ai utilisées, etc. » C'est que, bon, le Big Brother, il est partout. Bon, là, c'est le flicage numérique avec les nouveaux outils aussi de production et de contrôle, de flicage qu'il y a dans le travail, dans la société, partout quoi. Donc c'est vrai qu'apparemment le travailleur est devenu un loup pour le travailleur, on va dire, comme si que c'était plus un homme quoi. Et ce qui est intéressant, c'est comment c'est tout le vocabulaire de l'armée qui est pris à chaque fois. Donc d'ailleurs c'est fait. Et cette notion de guerre. Et alors c'est plus la guerre économique. Mais c'est vraiment la guerre contre soi quoi. C'est la guerre entre frères. Parce que l'ennemi c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est l'ennemi, puisque c'est l'autre. Non, c'est-à-dire que l'ennemi, c'est l'autre, sachant qu'il n'y a plus d'exploiteur. L'exploiteur, ce mot n'est plus utilisé. Il est complètement caché derrière... voilà.
Il y a le patron, oui, le patron, c'est des multinationales, c'est des actionnaires, c'est des et tout le truc a été de faire en sorte que les salariés soient aussi de plus en plus actionnaires, même si c'est ridicule. Et ça, c'est toute la manip aussi de dire, mais c'est, vous n'allez pas vous battre contre vous. Et les fonds de pension, c'était une folie. On a vu aux États-Unis, il y a des trucs quand même aberrants qui sont arrivés. Fonds de pension, parce qu'il n'y avait pas les retraites comme ça. Donc, les gens étaient amenés à préparer leur retraite. Et donc, ils mettaient leur argent, tout ce qu'ils pouvaient économiser dans les fonds de retraite. Et puis, ils se sont aperçus, au bout d'un moment, que les fonds de retraite qui décidaient, qui choisissaient de mettre du capital dans telle ou telle entreprise, ils ont décidé, des fois, des gens qui avaient mis leur argent dans le fonds de retraite, de fermer la boîte parce qu'il semblait pas rentable. Et des gens, alors qu'ils leur ont donné le pouvoir, ils se sont fait licencier par leur propre argent, je veux dire, qui ont permis de donner le pouvoir en fonds de pension. Donc on est dans des trucs quand même, c'est monstrueux quoi.
Il y a des fonctionnaires californiens du fonds de pension CalPERS, là je crois qu'il est le premier au monde, c'étaient les plus riches avant la crise. Certains ont tout perdu, ils ont perdu des centaines de milliers de dollars, voire des millions pour certains.
Encore ceux qui avaient beaucoup d'argent qu'ils en perdent, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, c'était le travail, leur économie, toute leur vie qu'ils ont perdu. Et là, c'est grave. Quoi.
Les multinationales, entre elles sont féroces. Elles se battent...
Elles sont féroces, mais bon, il y a des accords.
Ils ont des accords, mais quand même, ils se suppriment, ils achètent des OPA, là, et ils font...
Il faut être bon aussi, c'est sûr. Enfin, être bon dans leur système. Hein.
Oui,
c'est-à-dire, s'il y en a un qui n'est pas assez bon, qui ne s'est pas assez exploité, qui ne fait pas assez de rentabilité, il sera aspiré par un autre, et puis c'est tout. Hein. Ça, c'est sûr. Mais les dirigeants eux-mêmes, en général, ils arrivent toujours... Ils ont leur ligne de carrière, enfin leur plan de carrière qui fonctionne. Ils passeront d'une boîte à une autre. Et d'ailleurs, ils savent très bien qu'il ne faut surtout pas qu'ils restent trop longtemps. Et c'est le problème d'ailleurs qui s'est passé avec les stock options qu'on parle dans une entreprise. C'est-à-dire que ça, c'est le truc en effet il y a une quinzaine d'années. Et qu'en effet, un patron qui va déjà avoir un très bon salaire, mais qui va avoir des stock options, il sait qu'il ne peut pas les vendre pendant 5 ans, ces actions qu'on lui donne au départ. Et qu'il a intérêt au maximum à faire en sorte de presser le citron de tous les salariés pour avoir la rentabilité maximum pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, lui, il se barre, il n'en a rien à foutre. Et là, il peut revendre ses actions parce que là, l'entreprise... Voilà, et alors les gens, ce qu'ils ont, la dégradation sociale qu'il y a pu avoir au niveau des salariés, ils n'en ont rien à cirer, quoi. Je veux dire, ils pensent à leur truc personnel. Je veux dire, on est dans un monde tellement individualiste que de toute façon, et on voit, je veux dire, ils n'en ont jamais assez. On voit tous les scandales des bonus. Ils ont les trucs, ils en veulent toujours plus.
Poser, c'est est-ce que vos générations n'étaient pas moins frustrées que les générations actuelles, dans le fond, pour qu'elles veuillent autant consommer? Quand on est constamment comme ça dans la surconsommation, c'est parce qu'on est frustré. C'est évident.
Bah, je pense qu'il y a des frustrations à tous les niveaux. Je pense que là, c'est-à-dire que à notre époque encore, et je pense que l'époque d'avant, justement, j'ai parlé de la Conseil de la Résistance, je veux dire, c'était une époque où il y avait une nécessité, de toute façon, en tout cas pour ceux qui avaient un peu quelque chose dans la tête et qui pensaient d'être collectif et d'agir ensemble et d'avoir des liaisons très fortes parce que... Et je comprends, moi je sais quand j'étais jeune, par exemple, ça me faisait toujours marrer le truc du grand-père qui racontait ces trucs de la guerre et tout ça. Disant, le pépé, il nous gonfle un peu. Ça avait l'air d'être le truc le plus... C'était une époque fabuleuse. Et à un moment donné, en effet, j'ai compris que, alors que c'était pourtant horrible ce qui se passait, ou pendant la résistance, que des copains sont morts, que cette exploitation, qu'il n'y avait pas à bouffer, qu'il fallait se battre, qu'on risquait sa peau, mais les choses étaient essentielles. C'est-à-dire la vie était essentielle, les rapports humains. C'était l'espoir, en plus, de se battre et de revoir de la liberté. Et de fait, bah, c'est vrai que c'est ça qui était important. Et là, les gens, ils ne consommaient pas, là, je veux dire, en ces périodes-là. Mais je veux dire, et nous, dans ces années 68-70, je veux dire, c'est vrai qu'il y avait... Il y avait ce collectif, et c'est vrai que, je veux dire, il n'y avait pas les magnétos, il y avait une chaîne de télé, il y avait... Bon, c'est vrai que ça commençait à la consommation, c'est-à-dire qu'après 68, les publicitaires ont été extrêmement malins, ils se sont rendus compte, en effet, que la jeunesse avait, quelque part, avait une certaine liberté, ou avait pris sa liberté, et donc avait existé en tant qu'elle, et que c'était une masse à utiliser comme consommateur. Et donc, ils ont commencé... En effet, la consommation a vraiment beaucoup, et alors ça se disait quand même en 68, je veux dire, où c'est lancé le terme, enfin même avant 67, la société de consommation, je veux dire, n'empêche, c'était très prémonitoire parce que c'est devenu de plus en plus, en effet, une société de consommation. Et le fait, c'est que tout le monde, à cause de la télé aussi, enfin je veux dire, c'est complètement... Il y a une sorte de chose d'hypnotisant qui fait qu'on reste chez soi et on tourne le dos au monde et on regarde ce que l'État veut bien avec ce qui compte, même si il y a une télé publique, c'est quand même, on voit la puissance des groupes, comment là, depuis quelques années, notamment avec Sarkozy, comment les groupes de presse ont mis vraiment le paquet, ceux qui étaient dans le béton, dans les trucs, ont repris en effet des médias, parce qu'ils savent en effet qu'il faut absolument tenir au niveau des médias. Ouais.
Justement, je voulais parler du poids de la télévision. Du poids de la télévision. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'émissions, à part les maternelles le matin, là, qui est quand même une émission intéressante, enfin des gens ouverts, des gens, le journal de la santé aussi. Hein. Mais après, hein, quand on est, quand on voit, comment on l'appelle là.
Ouais, c'est ça, c'est vers 11h le soir.
Comment?
Oui, faut avoir
Oui.
Pas tous, hein,
Sinon.
S'il n'y a pas beaucoup de moyens.
Celui qui fait le soir à 18h là sur la 5. Mais c'est toujours les mêmes qui l'interviewent. Et alors, oui, c'est toujours des gens, vous comprenez, qui ne sont pas de gauche, qui se nourrissent un peu de tout, là, comme ça. Ce qui fait qu'on n'entend pas de voix. On n'entend pas de voix à la télévision de gens, des petits peuples, du petit peuple, si on peut dire. Hein.
Mmh. Enfin, il faut casser la télé. Des gens du petit peuple qui s'organisent, ils ne sont pas très nombreux, mais...
ils n'ont pas la parole, quoi, les médias.
Ils ont une communauté, ils sont décroissants, et a priori, ils vivent mieux que tous ces gens qui sont...
Oui, mais le problème, c'est le problème du collectif aussi. C'est-à-dire, ce qui est dommage, c'est que les gens même qui luttent se retrouvent souvent dans des petites communautés. Alors, on vit mieux soi-même, mais ce n'est pas forcément des luttes, une lutte par rapport à changer le système. Du coup, il y a une sorte d'individualisme de groupe aussi. Qui se fait. Et donc, ça, c'est aussi dangereux. C'est comment, en même temps, je comprends, à un moment donné, il faut survivre, il faut faire son truc. Mais moi, je ne peux pas vivre dans une commune, dans un pays, dans un peuple, dans une société, dans un monde où il y a des gens que je trouve qui crèvent de faim, qui suicident au travail, qui sont exploités. Donc, il faut se battre par rapport à l'ensemble aussi. Alors, on est obligé, en effet, de faire un peu attention à soi. Je veux dire, comme on sait, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, pour vivre, on peut vivre, même si aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Hein. Je veux dire, par rapport au logement, des choses comme ça, ce n'est pas simple hein, par rapport à des jeunes aujourd'hui. Je veux dire, par rapport aux études, par rapport aux trucs, enfin, je veux dire, c'est... bon, mais... Oui, oui, bien sûr, heureusement, bien sûr.
Ils occupent des terrains, ils se mettent à produire, ils sont pas nombreux en France, mais ils sont beaucoup plus nombreux dans d'autres endroits du monde. Et alors, c'est vrai que c'est un peu égoïste, comme tu le dis là, mais... Peut-être qu'en devenant un exemple, ils arrivent.
Oui, il faut, de toute façon, il faut mieux faire ça que de rentrer dans le système.
Et à fédérer des énergies autour d'eux. Mmh.
Ouais, mais enfin, ça, bref, je sais pas, mais moi, ça, bon, ce petit côté cosy, même si on est sans, on est cosy entre nous, ça me renvoie à des films de fiction tels que Waterworld, etc. Enfin bon, ou bien tout bêtement à des choses qui existent aussi, les Américains qui construisent leurs maisons avec des murs autour, voilà, un gardien, enfin des espèces de fiefs comme ça qui renvoient au Moyen-Âge. Enfin, moi, non, mais enfin, bon, petit à petit, bref, bon, après, quand on commence à construire un bien, il faut le protéger, parce qu'il y en a d'autres à côté qui n'en ont pas. Je veux dire, bon, c'est pas parce que tu construis un truc écolo, machin, tranquille, entre soi, de la récup et tout, c'est quand même l'accumulation, bon, à un petit groupe, autour, les gens crèvent la dalle, tu vois. Bon, après, bon, il faut protéger quand même ça, sa petite culture, son petit jardin, son petit potager. Non, mais... Ah bah alors, non, d'accord, non mais attends, je ne sais pas de qui on parle, mais c'est le système en soi. C'est-à-dire que qu'on soit tout seul ou sans, comme ça, on se crée un petit bout de paradis dans une crise mondiale. Bon, je ne sais pas si pour certains, si, c'est symboliquement, quoi. Jusqu'à un moment donné, avant les grandes crises, les gens avaient l'impression que ça y est, c'était bon, c'était les 30 glorieuses et tout ça, c'était le paradis sur Terre. Bon, avec ses limites, hein. J'ai pas dit l'éternité, ça, c'est autre chose. Je ne sais pas, parce que la chose, c'est de déconstruire toute cette peur, d'abord, moi je crois, et que voilà, c'est pas avec des solutions de survie, parce que ça, pour moi, c'est ce genre d'expérience, c'est peut-être bien, mais c'est de la survie, et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, c'est de comment on déconstruit, on participe au quotidien à déconstruire ce tricotage de la peur qui a été faite, sachant que il y a 5 ans, c'était le discours en France, ailleurs, c'est pareil, ce n'est pas la rue qui fait la loi. Hein, c'était bon. Et depuis, après, c'était regardez votre manifestation, c'était ridicule. C'est-à-dire que c'est comment tous ces médias qui sont concentrés actuellement chez les bétonneurs ailleurs participent à donner de l'invisibilité à tous ces gens dans leur multitude qui sont mobilisés, aussi bien de ceux dont tu parles. Mais le problème, c'est qu'il y a une telle intégration qui a été faite depuis quelques années. Qu'il y a quelque chose qui ne prend plus. Alors, est-ce que ça ne prend plus avec les formes traditionnelles voilà. Bon, est-ce qu'il faut retourner la solution, c'est ce que tu proposes. Moi, je ne suis pas convaincue.
Non, mais c'est vrai que c'est assez... Non, mais c'est le complexe, mais c'est vrai que le problème par rapport à la non-visibilité, moi, je vois bien quand je fais des débats comme ça dans toute la France, je vais des fois dans des lieux, mais partout... Il y a partout des gens qui sont prêts à se battre, qui sont conscients, qui font des choses, qui individuellement, qui font des petits collectifs. N'empêche que, globalement, on s'est retrouvés il y a 3 ans maintenant, même pas 2 ans et demi. Il y a une élection quand même démocratique, entre guillemets, même si elle est... mais enfin, je veux dire, ils n'ont pas bourré les urnes comme dans certains pays, ça je ne crois pas. Oui, il va en avoir encore une. Et je veux dire, qu'est-ce qu'on met au pouvoir? C'est quand même, ça questionne quand même. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, en effet, d'inventer d'autres choses. Alors, il y a une responsabilité. Je pense que, globalement, les gens n'ont pas forcément voté pour Sarkozy. N'empêche, c'est qu'ils ont aussi n'ont pas eu envie de voter pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est fait? On a malheureusement... Il n'y a pas de leader à gauche, enfin, ou des gens à gauche, qui amènent, en tout cas, actuellement, on ne voit pas, à part qu'ils se battent depuis des années entre eux, et c'est un problème de pouvoir, mais on ne sent pas qu'il y a vraiment de vrais leaders qui passent. Et ça, malheureusement, ça ne se construit pas, c'est un peu le hasard.
Mais en ce moment-là, puisqu'il va y avoir les élections régionales, je ne sais pas si vous avez le temps de regarder la télé, mais alors on nous montre, si vous voulez, les pourcentages des uns et des autres. Mais alors on ne montre le plus souvent qu'un seul, comment dirais-je, qu'un seul panneau, mais on ne va jamais jusqu'à la fin. Hein? Et alors, de temps en temps, quand même, quand on va jusqu'à la fin, les deuxièmes, alors on met le Parti communiste, on ne met même plus le Parti communiste, c'est simple. Hein? Et alors les gens vous disent, ah bon, ça existe encore ?
Et maintenant, c'est le Front de Gauche, forcément. Alors du coup, il n'y a pas forcément partout oui, le parti. Ah ouais, ça devient compliqué aussi. Ça, c'est leur problème.
Même pour le Front de Gauche, on n'en parle pas beaucoup à la télé. Hein.
Ah ben bah oui, mais ça, c'est le truc de la télévision. Ah, donc, c'est de dire, on donne, c'est même dans la loi par rapport au CSA, aux oui, possibilités qu'il y a, c'est de donner un temps de parole par rapport au pourcentage, en gros, qu'ont eu les gens ou le nombre de députés. Oui, donc d'une élection à une autre...
Le problème, c'est qu'on n'en aura jamais assez.
Ah oui, non, mais c'est ça le problème. Hein. Oui, mais enfin, à un moment donné, il y a eu la gauche qui était au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait de ce pouvoir ? Oui, mais il faut bien se poser la question. Pourquoi la droite est arrivée à nouveau au pouvoir ? C'est quand même que les gens, les Français ont voté. Alors, est-ce que la gauche, il n'y a pas eu les arguments, il n'y a pas eu un vrai changement de société qui fait qu'ils se sont dit, bah, après tout, autant aller et remettre Chirac en selle et puis après Sarkozy ? Je veux dire, c'est ça aussi le problème. Et Jospin qui était persuadé de passer quand il y avait le truc avec Le Pen, était tellement persuadé qu'il est au deuxième tour, qu'il avait tout compris. Bah ouais. Ah oui, mais c'est ça. Bah oui, la gauche, malheureusement, moi j'ai du mal à me dire de gauche quand je vois ce que c'est la gauche. Je veux dire, c'est vrai qu'on ne sait pas comment appeler ça. Moi, je ne sais plus comment appeler la gauche.
Gauche,
ouais, mais le problème, c'est que tout le monde se bat, je veux dire. Et ça, ils s'entretuent ensemble. C'est ça le problème. Bah oui, mais en gros, vous avez là le Parti Socialiste. Maintenant, il y a un peu alors, le centre-gauche avec Bayrou qui fait ces trucs-là. Vous avez le Front de Gauche avec PC, machin, et la gauche. Et puis, maintenant, il y a le NPA en plus les Verts, naturellement, là-dedans. Bon, tout ça...
J'ai envie juste, en vous entendant parler comme ça, j'ai juste envie de dire un truc, c'est qu'on ne peut plus raisonner en termes de gauche et droite. Ça paraît con à dire ça. Mais franchement, quand je vous entends parler comme ça, parce qu'il y a des gens à gauche, à droite, qui ne sont pas capitalistes. On leur fait croire qu'ils sont capitalistes. C'est un petit peu la peur du bolchevique avec le couteau entre les dents. Quoi. Donc, c'est parce qu'on a perdu complètement la notion de... le mot capitaliste, on ne l'utilisait plus il y a encore 2 ans. Quoi. On le disait du bout des lèvres, on disait néo-capitalisme, néo-bidule, machin, quelque chose de loin, comme ça. Il y a eu tout pendant 10 ans, on a dit que les classes sociales n'existaient pas. Je veux dire que... non, mais bien sûr, moi non plus. Mais bon, mais dis ça tous les jours, par des intellectuels, en disant que le marxisme était mort, en confondant tout. Etc. Bon, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un sabotage, un matraquage pour dire que... on ne parlait plus des exploiteurs. Quoi. Je reviens toujours à ces mots-là. Je crois que tout le long des débats qu'on a fait ici à chaque fois, c'était de dire qu'il y avait des mots qui avaient disparu, et c'est important. Dans ce sens-là, c'est pour ça que gauche et droite, actuellement, ça, je veux dire que ce n'est pas vraiment des notions d'exploitants, d'exploiteurs. Quoi. Alors que, bien sûr, je ne veux pas dire, je reste quand même de gauche, mais bon, je voudrais faire cette distinction. Parce que les gens aujourd'hui, de plus en plus, dans les micro-luttes, etc., qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, on se retrouve parfois dans certaines luttes. Ça fausse complètement la donne. Vous voyez, c'est bon. Donc, c'est par rapport à l'exploitation. Bon, il y a quelque chose de cette nature-là. Ça ne veut pas dire que je vais voter à droite, parce que je sais derrière qu'est-ce qui se cache. Quand on a un pantin comme on a actuellement qui est acheté complètement par le capital et qu'il s'est dit « j'ai 5 ans pour tout s'aborder, je finirai ma vie sur un yacht », bon, voilà, quoi.
Le problème, c'est qu'on se retrouve, depuis des années, moi, je vois, le problème, c'est qu'on ne vote pas pour quelqu'un, on vote contre. Quelqu'un. On va choisir à un moment donné, mais ce n'est pas l'enthousiasme. Il n'y a pas d'enthousiasme par rapport à voter. Je me rappelle le moment où les choses, on a voté, mais quand même du bout des doigts par rapport à Mitterrand, parce qu'il y en avait tellement ras-le-bol de la gauche. Mais je veux dire, on savait que ça n'allait pas quand même être la joie. Enfin, je veux dire, ça serait, il y avait peu de chances que ça soit une gauche révolutionnaire et qui aille très, très loin. Donc, c'est ça aussi qui est triste aujourd'hui, quoi, qui est que beaucoup de gens sont très paumés. Alors on dit on est un pays démocratique, oui, sûrement plus démocratique que d'autres, mais on est dans une démocratie élective, et la démocratie réelle, je veux dire, moi je sais pas où elle existe dans le monde. Elle est peut-être en train de se faire en Uruguay, mais c'est un exemple très particulier. Il a fallu que l'ultra-gauche attende pendant 30 ans les Tupamaros, et maintenant ils se retrouvent au pouvoir. On va voir dans un an s'ils arrivent ici. Et il y a un enthousiasme qui s'appelle, mais personne dans la presse, personne ne parle de ce qui se passe dans ce pays-là, parce que là, ça serait, à ce moment-là, ça serait un très mauvais exemple. Mais voilà, c'est le problème de vote, et que je pense que la vraie démocratie, comment la refaire, mais c'est là où c'est difficile, parce qu'à un moment donné, il faut utiliser, il y a ces élections, il faut les utiliser, il faut aller voter, mais la vraie démocratie, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, comment on se bat, et je pense plus, moi, pendant longtemps, j'ai cru au grand soir, et maintenant, j'avoue que j'y crois plus du tout, mais je crois beaucoup au petit matin, c'est-à-dire que de faire, de chacun dans son coin, dans les groupes, de former des petits groupes et qui reprennent petit à petit le pouvoir, je veux dire, mais par l'action qu'on fait au quotidien et par rapport au collectif, et pas se retrouver, surtout casser l'individualisme et d'être chacun et faire des liaisons avec d'autres. Alors il y a des groupes, il y a des trucs qui sont faits aussi à Montreuil par rapport à Ensemble, des choses comme ça, enfin qui sont en train d'essayer de se refaire, parce que les gens en ont ras-le-bol. Mais souvent, ce qu'on reparle, et je vois, même vous, enfin, je ne pouvais pas vous empêcher, forcément, vous allez dire, bon, pourquoi on ne parle pas assez du Parti communiste et machin. Bon, je veux dire, si on reste sur des positions par rapport au parti, c'est à chaque fois, ils se mettent ensemble et ils s'engueulent, et en ce moment, avec le PC, alors est-ce qu'il va être du côté du Front de Gauche, ou est-ce qu'il va aller avec le PS, et qu'on ne parle que de ça, on ne parle que de la politique politicienne. Voilà, c'est ça, ça c'est un vrai problème des politiques en France. Hein. Je veux dire, le concret, on ne sait plus, on ne voit plus la différence.
D'une éventuelle présidence tournante, là, s'ils réussissent à s'entendre, donc avec les socialistes, c'est quand même pas mal déjà.
Il y a des ambiguïtés avec le Parti socialiste quand même, parce qu'ils se sont prononcés pour le libéralisme économique, en disant que l'économie de marché se régularisait toute seule et qu'il fallait faire confiance. Alors c'est quand même ambigu, ces positions. Et alors, moi j'ai eu confiance à un moment donné au papa de Martine Aubry, mais non plus, j'ai plus confiance non plus, parce que dans l'Europe qu'il rêvait, c'est encore une Europe qui ne se pose pas encore en tant qu'Europe qui va se poser par rapport au bloc aux États-Unis, par exemple, et à la puissance chinoise actuelle, quoi. Une Europe qui essaierait de tirer ses cartes, ses...
Oui, on aborderait le social quand même. Parce que
une Europe, oui, qui se construirait d'une façon sociale aussi.
On est un peu loin, oui, c'est pas...
Oui, hein,
bah oui,
on
est loin. Ça a l'air... Oui,
bon, ça ne veut pas dire... C'est pas inintéressant en même temps. Là, c'était une manière en même temps, entre les États, d'être un peu plus collectif et d'essayer de réfléchir par rapport à une culture un peu commune. Mais là-dedans, c'est les marchands qui ont le pouvoir, enfin, globalement. Alors, il faut lutter. L'Europe, il y a des choses qui se font qui, en même temps, quand même, sont importantes. Parce qu'il y a des choses, si on veut lutter par rapport à l'écologie, par rapport à un certain nombre de phénomènes, il faut pas être chacun dans son coin. Il faut le faire sur le plus large possible. Mais c'est une lutte. Hein, je veux dire, il lâche pas. Je veux dire, le capital, le management, enfin, je veux dire, ne veut absolument pas lâcher les choses. Mais bon, je veux dire, j'ai pu comprendre à un moment donné quand les gens ont dit, bon, à un moment donné, on a voté contre l'Europe. Moi, je me dis, c'est un peu bizarre parce qu'on ne peut pas être vraiment contre l'Europe. Le problème, c'est d'y rentrer et d'arriver à se battre à l'intérieur et pas se dire non, parce que si on retombait dans les nationalismes, machin, il y a...
C'est la tendance.
Ouais,
hein.
C'est la tendance. Et là, donc, on ne peut pas. Et se retrouver, on se retrouvait avec des gens de gauche votant la même chose que les gens d'extrême droite. C'était quand même un peu bizarre, quand même. Bah oui, non, c'était quand même un débat qui était...
Mais c'était par rapport à la convention.
Oui, bien sûr. Mais enfin, qui avait lié la convention? À un moment donné, il y a des institutions collectives. Et ben, c'est une chose importante, mais c'est comment on va lutter dedans. Et en effet, c'est très difficile. Oui. Bien sûr qu'il faut changer. Mais bon,
et parallèlement, il y a tous ces discours, enfin, je ne veux pas parler franco-française de l'identité, mais qui est repris en Côte d'Ivoire, qui est pris en Ouzbékistan, etc. On assiste dans le monde entier pour le contrôle, renvoyer les gens à leur identité. Alors là, je lisais dans le monde diplomatique, là, la Côte d'Ivoire, toute l'histoire, en fait, comment on retournait à l'identité ivoirienne, c'est-à-dire que les générations qui étaient là, des autres pays africains, enfin, ceux qui étaient venus d'ailleurs, qui avaient fait leur vie là, qui avaient des responsabilités politiques, enfin, ils étaient intégrés, ils avaient une nationalité. Et voilà. On aura refusé de prendre des postes politiques, de se présenter parce qu'ils étaient du pays voisin malgré X années de vie là, etc. Donc il y a tous ces dangers-là qui sont de déplacer la chasse aux sorcières. Enfin, on est là-dedans, quoi. Donc ça, c'est aussi un élément qui contribue à la manipulation. Ça fait partie de la même chose que du cerveau libre à vendre. Voilà, parce que effectivement, on l'a bien rempli, ce cerveau, par la France qui se lève tôt. Il a commencé par ça, d'ailleurs. Le travail, la France qui se lève tôt, travailler plus, etc. etc. Renvoyer aux gens leur incapacité à devenir entrepreneur et voilà, devenir patron, devenir actionnaire. Il y avait comme s'il n'y avait plus le choix d'autre chose, quoi. Donc c'est ça qui est...